France Musique.
Très belle journée à vous, Karine Le Bay. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain.
France Musique.
L'Opéra Royal de Wallonie à Liège est l'un des théâtres lyriques où nous nous sommes rendus deux ou trois fois déjà depuis le début de l'ère des lieux. La salle a fait peau neuve il y a près de 3 ans maintenant et l'on y donne assez souvent des œuvres que l'on trouve rarement à l'affiche des grandes maisons. C'est le cas par exemple des Joyeuses Commères de Windsor, pièce maîtresse de Tony Colaï et dont Liège a confié la direction musicale à Christian Zacharias. Nous étions dans les coulisses des toutes dernières répétitions. Bienvenue.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
L'ère des lieux à l'Opéra de Liège.
L'ère des lieux.
Bonjour.
Autour des Joyeuses Commères de Windsor, Dodo Nicolai.
Buongiorno, caro.
De faire cela, c'est une répétition qui est très importante pour le chef d'orchestre, pour le metteur en scène et pour les artistes. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous demander dans la salle? On va faire tous le silence, absolument. On va faire le silence dans la salle.
L'ère des lieux. Sur France Musique, jusqu'à 17h.
Et puis j'espère que vous passerez un bon moment.
Très heureux que vous êtes mariés et femmes sur scène depuis quelques semaines.
Comme on travaille ensemble, oui.
C'est une histoire très amusante, car le chef d'orchestre a encore quelques corrections à faire. Ensuite, le rideau se levera pour que vous voyez cet extrait d'opéra. Je vous dis à tout à l'heure.
Christian Zacharias, on ouvre ce numéro de l'ère des lieux sur France Musique avec vous sur le plateau de l'Opéra de Liège. Vous dirigez les Joyeuses Commères de Windsor de Nicolai. On aura l'occasion d'en parler plus longuement après cette répétition. Peut-être que je voulais savoir ce que le musicien que vous êtes et à l'origine le pianiste que vous êtes, mais connaissez, je veux dire, tout jeune homme du monde de l'univers de l'opéra.
Je connais certainement les opéras que j'adore ou que j'aime. Et c'était un rêve depuis longtemps de présenter des choses qui sont vraiment dans le répertoire allemand. Ça, c'est le centre du romantisme allemand, disons léger, un peu comme la préparation de Offenbach même ou de Johann Strauss, mais en même temps sérieux, un opéra, pas une opérette. Et ce mélange entre allemand et italien, entre ironie et sérieux, ça j'ai toujours adoré. Et heureusement, Liège, et d'ailleurs comme Lausanne avant, ils ont accepté de présenter ça et c'est la première fois ici.
On se rencontre au moment d'une pré-répétition générale de cette production. Vous en êtes où exactement du travail avec à la fois la troupe, la production, le metteur en scène, les chanteurs, les musiciens? Qu'est-ce qui reste dans un moment comme celui auquel on va assister à continuer de peaufiner sur le plan musical?
Maintenant, c'est pratiquement fini, mais il faut le faire. Alors maintenant, il faut le gérer. Mais il y a très peu de corrections et on espère qu'il n'y a pas de catastrophe. Mais en principe, on est préparé.
On se rencontre tout à l'heure après la répétition. Oui, merci.
Thank you.
Bonjour.
Bonjour.
Sous la baguette de Raphaël Kubelik, c'est un premier extrait de l'ouverture des Joyeuses Commères de Windsor de Tony Colai. À Liège, le maître des lieux est italien, Stefano Mazzonis, c'est le directeur de l'opéra de Wallonie.
C'est un opéra génial, et ouais. On ne comprend pas pourquoi. C'est ce qu'on se disait,
ouais, c'est jamais donné.
En Belgique, alors ce matin, je parlais avec le plus vieux critique, le doyen des critiques belges. Alors à Liège, c'est sûr, on ne l'a jamais donné. Mais selon lui, non plus à Bruxelles ni à Anvers, ça a été jamais donné. Ce qui est étrange. Je crois qu'aussi en Italie, moi je viens de l'Italie, et c'était mon rêve quand je dirigeais l'opéra de Bologne, c'était mon rêve de monter le Lustige Weib, les Joyeuses Commères, à Bologne. Et c'était parmi mes projets, après j'ai quitté pour venir à Liège, et voilà. Et enfin, j'ai réussi à le faire. Et moi je crois que c'est un de ces oublis coupable, un oubli coupable de tout le monde, qu'ils ont oublié ce petit chef-d'œuvre qui est Lustige Weib de Otto Nicolai, qui est un compositeur qui a vécu trop peu, d'abord, donc il a été oublié vite, parce que après, il y a eu justement Verdi, et il y avait déjà Rossini, Donizetti, Bellini, et après, on a eu tout de suite Wagner, on a eu Puccini, et donc, il a été mis de côté. C'est un de ces petits génies qui ont été mis de côté. Mais c'est une faute de tous les directeurs d'opéra d'oublier un compositeur de ce niveau-là, qui a aussi des autres opéras qui sont de grand intérêt et sont très beaux. Christian Zacharias, c'est lui qui m'a donné envie, parce qu'un jour, en parlant, il m'a dit j'adorerais faire Lustige Weib. Je dis voilà. Alors j'ai trouvé le chef, maintenant je m'y mets, et j'ai trouvé le coproducteur et je pars. Voilà.
C'est étonnant d'ailleurs de se dire qu'on trouve une personnalité comme Christian Zacharias diriger ces Joyeuses Commères de Windsor de Nicolai, quand on connaît un peu la personnalité musicale, le parcours de pianiste qu'il a eu, à la fois la rigueur et la discipline qu'il a dans le piano, la fantaisie aussi, mais quand même, tout ce qu'on connaît de lui, et le retrouver un jour ici en Fosse pour diriger une œuvre comme celle-ci. Ça vous étonne ou pas ?
Ça m'a étonné quand il me l'a dit la première fois qu'il voulait diriger Lustige Weib, mais ça m'a étonné, je dirais, 30 secondes. Après, j'étais tellement enthousiaste que j'ai oublié qu'il fallait s'étonner.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.
respiration numéro 5. Une énorme respiration, s'il vous plaît. 5. Un soin dans la vie de tout ce qui est la 7e mesure.
Christian Zacharias, je vous observais répéter ces joyeuses commères de Windsor de Tony Nicolai. Je me dis que le métier de chef d'orchestre, il est bien différent de celui de pianiste. Et je me demande au fond, comment on l'apprend ? Est-ce que c'est avec le fil des années chef d'orchestre et chef d'opéra, qui plus est.
Un des meilleurs mots, j'ai vu, il y avait une très jolie interview avec Nello Santi, qui est un grand chef aussi d'opéra, n'est-ce pas? Et ils l'ont demandé s'il lui donne des masterclass ou s'il enseigne la direction. Et il a très clairement, en italien, dit « La direction, l'art de la direction, ça n'enseigne pas, mais ça prend. » C'est-à-dire, et ça, j'ai vu... Il faut vraiment le dire, et finalement tous les chefs l'admettent, en faisant, vous apprenez. Et un autre qui est un grand exemple pour moi, vous serez surpris, c'est Pierre Boulez. Dans ses écritures, il y a sur la direction, les chefs, et il dit aussi, il est autodidacte. Alors, il a ses trial and error, les Anglais disent. Vous essayez, ça ne va pas, vous essayez, ça va, vous apprenez. Bon, mais il faut... pas seulement demander, mais il faut aussi recevoir. Alors, c'est-à-dire, c'est toujours un, comme disent les Anglais, des feedbacks. Et bien sûr, avec pas seulement la fosse qui joue un orchestre, on prépare l'orchestre, mais aussi la scène, il y a plusieurs niveaux de recevoir et de donner. Et il faut aussi faire confiance. C'est pour ça qu'on répète avec l'orchestre avant, que finalement, on peut faire confiance à l'orchestre. Après, les chanteurs commencent. Après, il y a toujours certains chanteurs qui ont du rythme. Il y a des chanteurs qui ont moins de rythme. Il y a d'autres qui prennent leur temps, d'autres qui respirent beaucoup, c'est-à-dire là, l'orchestre commence à être un peu... Alors, tout ça, mais je trouve que c'est fascinant de monter de toutes ces imperfections quelque chose qui probablement, finalement, marche, n'est-ce pas? Mais c'est jamais garanti. Et aussi, si une générale va bien ou une première, c'est pas garanti que la deuxième ou la troisième tient... garde la même. On sait que l'opéra, c'est le danger, mais je crois que c'est pour ça que je le choisis de temps en temps, parce que alors vous perdez un peu cette arrogance, disons, du grand musicien qui dit « Oh, tout est possible, n'est-ce pas ?» Là, c'est la réalité, disons. C'est, on dirait, le bordel, ou c'est quelque chose comme ça, ou comme Fellini, un film de Fellini, ou des choses comme ça.
Mais ce bordel, pour reprendre votre mot, Christian Zacharias, qu'il faut quand même apprendre à fédérer, à discipliner. Oui, quand on a la rigueur d'un musicien, au départ, soliste, comme vous, évidemment, qui travaille aussi avec d'autres chefs et des orchestres, mais qui, voilà, se retrouve en fosse, ici, dans une maison d'opéra, comme cet opéra de Liège, Wallonie.
On essaie.
On en a le goût.
On veut arriver, même finalement, à cette version que j'ai dans ma tête, ou des tempi que j'ai dans ma tête. Mais comme j'ai dit, les compromis que vous faites sont plus grandes que si je fais une symphonie avec un orchestre symphonique. Ici, vous arrivez peut-être finalement à 87%, ou peut-être 92% de ce que vous voulez faire. Et... bien sûr, on essaie d'achever 100%, mais vous voyez, alors on s'arrange et on demande et on exige et on va voir à la fin où on arrive, combien de pourcents manque.
Stéphanie, prenez une feuille blanche et écrivez. Compte rendu de la consultation de la patiente Flotte. Premier paragraphe. Madame Flout se sent perturbée par les avances d'un certain monsieur Falstaff, F-A-L-S-T-A-F-F, qui lui a adressé une lettre lui proposant un rendez-vous coquin. D'un côté, elle est rebutée par le comportement grossier de ce monsieur. D'un autre, elle se sent désirée et extirpée de la banalité de sa vie quotidienne. Elle a par ailleurs informé son mari de ce rendez-vous avec monsieur Falstaff, au moyen d'une lettre anonyme dans le but d'exciter sa jalousie maladive. Deuxième paragraphe.
La figure de Falstaff elle-même, Christian Zacharias, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je veux dire, depuis Shakespeare jusqu'à Nicolas et en allant peut-être jusqu'à Verdi et d'autres après.
Là, j'ai aussi appris, c'est le symbole d'une virilité qui est presque dangereuse. Et comme ça, j'ai aussi problème parfois si c'est trop... faisons un peu la blague. C'est pas ça. Et certainement pas dans cette mise en scène. Il est là, il est toujours là. Il a une force incroyable. Et j'habite maintenant en Angleterre. Et heureusement, on a vu Henry IV, de Shakespeare, où la figure de Falstaff
Henri IV, oui,
commence à exister. Et là, il est encore plus fort que dans les Joyeuses Commères de Windsor. Alors, c'est fascinant aussi de voir les sources, où ça vient, un peu apprendre. Mais bon, finalement, ça ne vous aide pas à diriger l'œuvre. Mais ça un peu vous met dans le climat de toutes les possibilités.
Troisième paragraphe.
David Herman qui fait la mise en scène de ces Joyeuses Commères de Windsor. J'aimerais bien que vous nous parliez d'ailleurs de son travail, puisque vous l'avez sous les yeux. Comment vous l'analysez, cette mise en scène de David Herman, cette adaptation de ces Joyeuses Commères?
Elle me plaît. Alors, moi, je l'ai vu déjà à Lausanne. Je n'ai pas dirigé à Lausanne, mais je l'ai vu et j'étais très heureux parce que le danger avec ces opéras, de ce Biedermeier romantique, de ce un peu bourgeois, de la petite bourgeoisie allemande, est que ça devient un peu... La petite ville est un peu
routinier.
Et de le revoir et de lire le texte, ça finalement il fait. Et comme j'ai dit, elle veut se laisser, elle demande un divorce. Lui dit je te tue si tu continues comme ça. C'est la jalousie, mais limite, c'est vraiment très sérieux. C'est pas coquin, un tout petit peu, on essaye. Ça commence avec ça et tout d'un coup on réalise. Et c'est très, très dangereux. Et il montre ça. Et ce que je trouve aussi bien, parce que les deux fois, c'était pour un public français, il inclut alors ce psychologue qui parle français et qui traite tout le monde, pour ainsi dire, sauf Falstaff d'ailleurs, qui est un symbole pour tout, pour la force derrière ça. Et ça, je trouve, c'est très inspiré de penser de faire ça, parce que le danger de cette opéra, c'est les dialogues qui sont vraiment petits bourgeois du 19e siècle, n'est-ce pas? Et qui ont peut-être aussi fait que cette œuvre n'a pas traversé les frontières.
Le canapé. Et maintenant, une tasse de thé.
Vous avez avec vous cette partition des Joyeuses Commères de Windsor de Tony Colaï. Christian Zacharias, comment parleriez-vous de l'œuvre et de la façon dont elle s'inscrit dans son époque?
Ah, il y a quand même du Mozart dedans, il y a quand même le romantisme, il y a les harmonies autour de... C'est après Weber, c'est après le romantisme allemand du début du 19e siècle. Il connaissait, bien sûr, Schumann. Il a écrit des articles pour les journaux de Schumann. Il connaissait de jeune Wagner. Wagner a même pris un thème de cet opéra pour doucement l'inclure. Alors, moi, ce qui me fascine le plus, comme j'ai dit au début, c'est ce mélange entre... Italianità, il a vraiment étudié en Italie. Cette ère de Fenton, c'est la plus belle ère d'un ténor italien qu'on puisse imaginer. Et écrit par un Allemand, prussien d'ailleurs. Moi, je suis prussien aussi. Il était né à Königsberg. C'est là où mon père a étudié. Alors, ça, c'est très intéressant. Et après, il était à Vienne. Alors, il a appris tout ce qui est italien. Il est revenu en Allemagne. Il voulut un peu... fondre les deux styles. Et ce qui est le plus fascinant pour moi, c'est cette ironie que tout d'un coup, il y a quelque chose de très... Mais je te tue. Ce type dit à sa femme, je te tue. Elle dit, je vais avoir un divorce. Ça, au milieu d'un 19e siècle. Et ça, et tout d'un coup... Un tout petit peu Offenbach, déjà. La belle Hélène, c'est 15 ans plus tard. Alors, la belle Hélène est 15 ans plus tard. La chauve-souris, c'est 25 ans plus tard que cette pièce. Alors, ça, je trouve fascinant. Est-ce qu'on rigole ou est-ce que c'est mortellement sérieux?
Warum willst du so verlieren? Schickst wohl auf die Bleiche Ein sauberes Zeug, ein sauberes Zeug. Wart, wart, ich wasch es dir sogleich. Na, was steht denn hier noch da? Maul affen! Ja so, ja so, die Tür hab ich verschlossen. Marsch hinaus mit euch! Jetzt, jetzt will ich deinen sauberen Junker ein wenig auf die Bleiche schicken. Ja, bleich, bleich werd ich.
Wir sind
doch gut. Höre meiner Lache Schwur.
L'air des lieux à l'Opéra de Liège autour des Lustigen Weiber von Windsor, Otto Nicolai, sur France Musique, jusqu'à 17h.
David Herman, c'est vous qui signez cette mise en scène des Joyeuses Commères de Windsor, d'Otto Nicolai. Alors, à l'allemand et au français que vous êtes, hein, vous avez deux nationalités, hein, voilà. Franco-allemand. David Herman, j'ai envie de te demander si c'est une pièce qui est quand même beaucoup plus souvent jouée en Allemagne qu'elle ne l'est en France, et j'allais dire a fortiori ici en Belgique à l'Opéra de Liège. Est-ce que c'est une pièce qui est vraiment dans le répertoire lyrique allemand ?
Non, en fait pas vraiment, et c'est très bizarre parce que c'est une pièce très très riche d'humour, de sensualité, de fantaisie. Mais aussi en Allemagne, elle a un peu un côté ça fait un peu vieux opéra, c'est un peu poussiéreux. Et moi, depuis des années, en fait, je bats contre cette image. Et je suis content et étonné que, en fait, maintenant, dans une maison plutôt francophone, je peux faire cette pièce. Et j'essaie quand même de communiquer cette pièce quand même très allemand, mais quand même aussi, au fond, shakespearien. Ouais. Mais basé sur de la langue allemande, au public francophone. Donc j'espère que ça marche.
Alors, il tient à quoi, vous diriez, ce côté un peu poussiéreux ? Est-ce que ça tient d'une part à la notoriété évidemment beaucoup plus grande d'un autre chef-d'œuvre du répertoire lyrique, qui est le Falstaff, bien sûr, qui plus est le dernier opéra de Verdi, ou est-ce que ça tient aussi à d'autres choses, aussi à un contexte peut-être dans lequel cet opéra de Otto Nicolai s'inscrit aussi ?
Moi, je crois que c'est... Ça a une raison musicale, en fait, parce que j'ai écouté plusieurs enregistrements, et c'est là où je trouve un peu que c'est joué trop lourd, l'allemand est prononcé trop à l'ancienne, et surtout la méchanceté de l'œuvre de Nicolai, la modernité, par exemple, entre le couple Flute qui se déchire en jalousie. Je sais pas, j'ai l'impression que les enregistrements ont peur, en fait, de vraiment réaliser les émotions qui sont là. Et c'est toujours arrondi, assoupli, et c'est fait mignon avec un texte parlé en allemand un peu popo. Et donc, on perd carrément tous les méchancetés de la pièce. Et là, quand même, il faut mettre la main dessus.
Qu'est-ce qui reste de Shakespeare et qu'est-ce qui tient vraiment de l'opéra de Nicolai dans ses Joyeuses Commères de Windsor, David Herman ?
Ah, c'est difficile à dire. Moi, je trouve qu'il y a quand même, disons, dans les intrigues, pas mal d'esprit shakespearien. Des fois, c'est même mieux, je trouve, que Shakespeare. Parce que aussi, il faut dire, la pièce, les Joyeuses Commères de Windsor, est presque jamais jouée sur le théâtre. Et on dit aussi un peu, bon, c'est pas le meilleur Shakespeare. Donc là, je trouve que dans certaines scènes, Nicolai... et au niveau de Shakespeare, mais surtout je trouve que Nicolai trouve très très bien, disons, le parfum shakespearien dans le troisième acte, disons dans le parc où tout est permis, on se retrouve carrément dans un songe d'une idée, en fait un mini opéra à la Mendelssohn. Et ça, c'est étonnant d'avoir d'abord une grande partie qui est plutôt la jalousie, le couple, la relation de couple, et après, oups, c'est un autre monde, en fait le fantastique. Ça, c'est super.
c'est 1849. Vous vous rappelez la date de la création de cette pièce d'Otto Nicolai, Les Joyeuses Commères de Windsor, David Herman. Nous, on est en 2015 et il faut montrer et donner à voir aussi une œuvre comme celle-ci au public d'aujourd'hui. Alors, il faut que vous donniez aux auditeurs quelques clés d'explication visuelle, si possible, de votre mise en scène, parce que ces Joyeuses Commères, elles se déroulent, en tout cas pour toute la partie qu'on a découvert jusqu'à présent, jusqu'à cet entracte, sous l'œil d'un personnage.
Voilà. En fait, on a introduit un acteur qui parle français, qui est un sort de thérapeute pour les rôles principaux. Donc, par exemple, avant que Madame Flute ose avoir le premier rendez-vous assez chaud avec Falstaff, elle va voir son thérapeute et lui explique qu'est-ce qu'elle a comme problème. Et en fait, elle veut une absolution. Elle veut que le thérapeute lui dise « Allez-y ». Et ça, c'est en fait, ça donne un espace intéressant pour cette ère. Et après, on a introduit des petits résumés en français où le thérapeute en fait explique qu'est-ce qu'il vient d'observer, parce qu'il y a quand même le langage allemand est très très dense, il y a beaucoup de mots. Et donc c'est aussi là où on a introduit des petits endroits de communiquer et de donner un autre perspective sur le personnage, sur l'action qui se déroule.
On passe à l'acte dans cet ouvrage, enfin, puisque tout ça justement se passe sous l'œil d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, oui. D'un psychothérapeute de couple, on pourrait presque dire, mais dans votre mise en scène, David Herman, on passe à l'acte. Je veux dire que Madame Flute et oui. Falstaff, voilà, mais c'est dans le livret ou ça c'est une idée à vous ?
Ça c'est une idée à moi, mais très inspirée de la musique en fait, parce que si on entend la musique, juste cette scène que vous évoquez, c'est rom tom 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 tom. C'est vraiment un grand un achèvement. Et après, il y a c'est dans la musique qu'on a trouvé ça.
Gut, ich will dir glauben, du
J'ai envie de demander à un jeune homme, encore comme vous, David Herman, comment on devient metteur en scène d'opéra aujourd'hui ? Est-ce que c'est justement par le goût de revisiter des œuvres comme celle-ci ? Comment, au fond, vous avez débuté votre parcours de metteur en scène d'opéra dans un répertoire qui est en plus extrêmement large, hein, parce que c'est Nicolai aujourd'hui, c'était le Falstaff de Verdi, vous allez voir dans le répertoire, évidemment, qui vient après, dans celui d'avant, on s'était rencontré à Nancy pour une Italienne à Alger de Rossini. Alors, c'est quoi l'idée au départ de faire ce métier ?
Donc, au départ, c'était bien sûr la curiosité et aussi l'enthousiasme pour ce travail, pour cet espace. Maintenant, après presque 10 ans de carrière, moi, je trouve que c'est surtout une responsabilité de trouver des accès qui permettent au public d'apprécier. Et c'est des ouvertures, en fait, pour mieux que le public entre dans les pièces, que ça communique avec les gens. Et ça, pour moi, c'est essentiel, même s'il faut un peu... pas changer les œuvres, mais se mettre dans les œuvres. Là, j'ai coupé tous les dialogues, mais pour aider en fait l'œuvre. Là, bien sûr, des gens vont dire, mais pourquoi aider ? Vous n'êtes pas mieux que Nicolas, là, 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 là. Mais non, je respecte les qualités, je respecte surtout la musique, elle n'est pas touchée. Mais il faut quand même trouver des idées. Et ça, je trouve ça quand même intéressant de travailler avec ces œuvres très, très différentes depuis 400 ans, de Monteverdi à Lachenmann, en fait. Ça, c'est en fait mon spectre à ce moment.
Et il est large, votre spectre, oui, hein, David Herman, voilà. Parce que vous commencez avec les débuts de l'opéra et vous allez jusqu'à l'époque contemporaine. Oui.
Voilà. Mais c'est quand même bien de chaque fois de penser, en fait, de zéro, bon, comment on va faire ça ? Et des fois, je ne trouve pas.
Et ça s'apprend, le travail de metteur en scène d'opéra ? C'est une question que vous allez trouver peu bizarre, mais vous avez fait des études pour devenir metteur en scène d'opéra.
En Allemagne, il y a trois écoles supérieures de musique qui ont une formation de metteur en scène d'opéra. Et j'ai fait ça à Berlin. Donc c'était encore une école d'État, mais qui avait le bras féroce un peu de la main de l'Est.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire on lisait Hegel et c'était très très théorique, mais c'était pas mal. Quand j'ai commencé, je me demandais, oh là là, c'est quand même, mais c'est très très analytique, c'est très compliqué. Mais maintenant, je suis content que j'ai fait ça en fait. Et après, bon, j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec Hans Neuenfels. C'est un peu l'enfant terrible des années 60.
Vous pouvez rappeler en quelques mots qui il est et son parcours.
Oui. Neuenfels, il a commencé comme un des metteurs en scène les plus scandaleux du théâtre. Et après, dans l'opéra, disons, je crois, son éclat le plus grand était La Chauve-souris à Salzbourg en 2001, où j'étais assistant. Donc là, j'ai beaucoup appris, mais... je crois que j'ai quand même pas fait l'erreur de copier son style. Donc, je crois que j'ai appris la technique et aussi pour les répétitions. Mais j'ai toujours eu ma fantaisie et voilà, mon monde à moi. Ça, c'était très bien.
Verzeih, mein liebes Weibchen, verzeih, ein Brief vertraute. Es sei der Ritter John bei dir.
Alles und den ganzen Stand. Alles und den ganzen Stand.
Dans la fosse de l'Opéra de Liège, un éminent musicien, pianiste, on l'a connu comme pianiste, il est aujourd'hui chef d'orchestre, c'est Christian Zacharias. Vous avez collaboré et travaillé comment tous les deux, David Herman?
Bah c'était, pour moi c'était un grand plaisir parce que j'étais un peu fan de lui autant pianiste. J'écoutais pas mal des enregistrements.
Qu'est-ce que vous aimiez chez lui? Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Bah, comme pianiste, c'est disons la délicacité, ça se dit?
La délicatesse?
La délicatesse, voilà. Je trouvais ça quand même très, très chantant, son rapproche du piano. Oui, c'est les enregistrements de Schubert, par exemple, je trouvais ça très, très bien. Et aussi les concertos de Mozart, bien sûr. Voilà, donc j'étais très curieux comment ça se passe. Et heureusement, il a déjà vu la version à Lausanne, comme il était chef de l'orchestre de chambre de Lausanne. Et il aimait bien, parce que pour cette production-là, il faut vraiment un chef qui est sur le même côté. Parce que sinon, si on commence à battre, ça marche pas. Et donc, il connaissait déjà tous les petits changements, tous les petites interactions aussi avec la parole parlée. Et ça a aidé beaucoup. Et en fait, c'était très très amicalement. Oui.
Christian Zacharias, c'est difficile ça au tout départ quand on fait un début de carrière de chef d'orchestre, qu'on a travaillé dans la solitude de soliste, alors à apprendre à maîtriser tout soi-même, tous les paramètres. Au départ, ça doit être
absolument
difficile, contrariant quelquefois.
Après, il faut insister et croire. Et bon, heureusement, mais maintenant je le fais depuis 92. Alors maintenant, comme chef, j'ai quand même plus que 20 ans de travail, de carrière, et 13 ans de chef avec un orchestre, tous les jours, pour ainsi dire, ça apprend aussi. Mais la grande différence, bien sûr, n'est pas l'art de diriger, c'est d'être avec des gens, d'être extrovert, de les prendre et de ne pas... Parce que les pianistes, finalement, même que les violonistes et d'autres, sont des instrumentistes qui sont devant une boîte et qui sont très individualiste, presque enfermé. Et je le vois avec beaucoup de collègues qui ont 50, 60, ça devient encore pire. Ils s'enferment encore plus dans un cocon de perfection et toutes sortes de choses. Ici, comme j'ai dit, c'est pas seulement l'imperfection, mais c'est la vie.
Et ça veut dire que ce travail de chef vous a appris davantage encore sur votre propre parcours de pianiste, Christian Zacharias, et sur votre travail aussi de pianiste au quotidien.
Oui, je crois, un tout petit peu, mais là, c'est plutôt le rythme d'un orchestre, ou si vous connaissez un groupe de basse, de violoncelli, et votre main gauche, et vous comparez ça, tout d'un coup, c'est une certaine stabilité de chef que j'ai peut-être encore plus inclus dans mon jeu. Avant, c'était encore plus de roubate, un peu plus de liberté. Je crois que c'est un peu plus, encore plus dirigé, pour ainsi dire.
Thank you. Vous citiez un peu vos origines, celles de votre père, Christian Zacharias, au fond, vos tout débuts aussi dans la musique, mais l'opéra, d'une façon générale, ce répertoire, d'autres œuvres, peut-être, ça a fait partie de quelque chose qui vous a beaucoup accompagné, je veux dire, au tout début, hein, l'enfance, l'adolescence, oui, c'était quelque chose de très présent, très tôt.
Absolument, j'ai vécu à Karlsruhe, et il y avait un théâtre, c'est le Staatstheater, d'un comte de Baden, n'est-ce pas, ou Baden-Württemberg, Stuttgart était à côté, Stuttgart était le top. Là, il y a John Cranker avec le ballet, il y a Carlos Kleiber était chef, Ferdinand Leitner. Là, j'ai vu des très grandes productions, mais Karlsruhe, c'était le début. Alors là, j'ai vu Lortzing, c'est un collègue de Nicolai, Zau und Zimmermann, fantastique. J'ai vu les opéras de Mozart, quelques petites opéras, mais avec un très bon orchestre. Karlsruhe a fait la première de la première symphonie de Brahms. Alors, c'était une ville très importante au point de vue art. Alors là, j'ai étudié et je suis allé à l'opéra. Et à la maison, on a entendu avec les parents et comme ça. C'était ce climat, absolument.
Mais au départ, ce n'était pas le métier auquel vous vous destiniez, je veux dire chef d'orchestre. Vous y avez pensé après, chef d'orchestre et chef de fosse, chef d'opéra, qui est encore un métier à part.
Non, mais j'ai quand même étudié, quand j'ai étudié officiellement à Karlsruhe, au conservatoire, j'ai étudier d'ailleurs la direction, et parce que j'ai pensé pianiste, faire une carrière comme pianiste, c'est pratiquement impossible. J'ai toujours dit il y a un ou deux par génération dans un pays qui font vraiment la carrière comme pianiste. Et là, j'ai préparé d'être, je peux toujours être premier kapellmeister, troisième kapellmeister, co-répétiteur au théâtre. Comme ça, j'ai quand même un peu vu. Et après, j'ai gagné à Genève le deuxième prix. Et tout d'un coup, le pianisme a montré, quand même, il y a une chance, n'est-ce pas? Et là, j'ai suivi pendant quelques années.
Mais avec toujours l'idée en tête que le métier de chef d'orchestre viendrait un jour.
C'est le répertoire, mais toujours avec les symphonies, le grand répertoire qui s'élargit un peu et qui inclut le côté humain de beaucoup de musiciens qui contribuent à quelque chose. Et ça, c'est le miracle de la musique classique. Pas seulement d'être seul et jouer, mais un orchestre symphonique, c'est toujours assez étonnant, n'est-ce pas?
Vous entendez citer deux figures de chef ô combien différentes. L'un qui a fait notamment une grande carrière de chef d'opéra, qui est né Lossanti, dans le répertoire italien notamment, mais pas seulement. Et puis la figure de Pierre Boulez a des dimensions complètement opposées, mais
et
ce sont des carrières qui vous inspirent.
Et non seulement parce qu'on a parlé de qu'est-ce qu'on apprend, ou comment est-ce qu'on prend, est-ce que c'est vraiment une technique ou un art, ou est-ce qu'on apprend en le faisant ou en l'apprenant. Mais la plus grande figure, c'est au milieu, pour moi, c'est Cheli Bidak, avec qui j'ai pu jouer aussi. Quoi. Et il n'a jamais dirigé opéra. Ça, c'est un type qui a tout de suite dit, non, ça, c'est pas pour moi.
Et alors, pourquoi une source d'inspiration pour vous, Cheli Bidak?
Il y a parce que là, comment il travaille avec un orchestre, comment il répète avec un orchestre, ce qu'il entend dans les différents niveaux de orchestre et de jeu ensemble entre les groupes. Là, il est un des très, très grands. Et dans les répétitions que j'ai pu suivre, là, j'ai appris presque le plus.
Et on a quel type de dialogue quand on est soliste et quand on travaille avec un chef comme Sergiu Cheli Bidak,
Christian Zacharias? Jeune, là, il m'a seulement... j'ai appris, j'étais le petit fils, là, le petit pianiste de 25-26 ans. Et bon, un moment était encourageant, j'ai joué le concert de Ravel, et il m'a dit, j'ai un trill là-bas, c'est un peu... Mais Michelangelo le fait comme ça. Et là, je me suis dit, si ça, c'est la seule solution qu'il peut me dire que Michelangelo, c'est pas mauvais.
Aujourd'hui, c'est bien d'avoir l'équilibre à la fois de ce travail de chef d'orchestre, de musique symphonique, de répertoire lyrique, de ce travail que vous faites ici dans un théâtre d'opéra. C'est l'odeur des planches, c'est les coulisses, c'est le théâtre. Et puis, j'imagine le travail plus intime que vous continuez de faire au quotidien, de travailler votre piano chaque jour, Christian Zacharias. Mais cet équilibre-là, il est bon, il est nécessaire aujourd'hui.
En ce moment aussi, ce n'est pas possible. Mais dès que la générale et la première sont faites, je reviens parce que la prochaine programme, c'est la deuxième de Bruckner, précédée d'un grand concert de Mozart avant. Et là, je reviens à cet autre trajet.
Vous trouvez que les deux vous nourrissent, enfin l'intimité du travail au piano et puis le travail collectif, vous trouvez que les deux
parce que, comme j'ai dit,
forment un équilibre musical.
Et aussi un équilibre humain.
Répertoire, je veux dire dans son entier, dans le répertoire lyrique, Christian Zacharias, et si on se projette peut-être, mais dans les saisons, dans les années à venir, mais il y a quel type d'ouvrage, quel répertoire, quelles œuvres, quel compositeur que vous rêveriez de diriger?
Du côté léger, comme j'ai déjà fait La Belle Hélène, par exemple, La Chauve-souris de Johann Strauss, c'est toujours un rêve. De Mozart, c'est Così fan tutte, par exemple. Et après, bon, on ne sait pas. Peut-être après, ça devient vraiment trop grand. Mais la Valkyrie de Wagner, une œuvre où je pense que chaque acte est vraiment un chef-d'œuvre en soi, c'est quand même... on va voir.
Et pourquoi vous dites après, ça devient trop grand? Ça veut dire que vous interdisez des choses
Je vois aussi que comme certains collègues vraiment opératiques ont dit, Armin Jordan, avec lequel j'ai beaucoup fait de la musique et beaucoup discuté, c'était un vrai opératique. Il a commencé à 16 ans. Son fils, qui est maintenant chef, c'est des types qui ont vécu, qui ont bu ça avec le sang de leur mère, disons, pour un muttermilch, le lait de mère, n'est-ce pas? Et moi, j'ai commencé très tardivement avec ça. Alors comme ça, je sais, certaines choses seront probablement trop compliquées pour moi, ou Wozzeck de Berg, ou des choses comme ça. Mais il y a des rêves. Et qui sait, si je parle de rêve Wagner, ça sera probablement Walküre, et si je parle de Verdi rêve, c'est Don Carlos.
Merci beaucoup, un grand merci.
Merci.
Ils reprennent, non?
Oui.
On peut commencer avec, juste là, on a fini la dernière scène.
Isabelle
Nun, genug der Strafe und alles sei im Guten beigelegt.
Hey, hola, Vater Reich, Vater Reich!
Hey, hola, wo sein Madame Reich? Pardieu, ich sei geführt an, ich habe geheiratet, un garçon. Es sei nicht Miss Anne, diese rote Elf. Es sei so spärlich. Mort de ma vie, je suis furieux.
Nun, das ist spaßig genug. Aber wo ist denn nur Anna?
Verzeihung, lieber Vater, liebe Mutter.
Was? Fenton? Nimm meinen Segen und mache mein Kind glücklich.
Oh, dank, teure Vater.
Seid glücklich und empfangt auch meinen Segen.
Oh, beste Mutter.
Nun, Sir John, lasst uns Frieden machen. Und kommt, ihr sollt zu Entchens Hochzeitsfeier eure Leiden bei einer Flut von Sekt vergessen. So hartet der Schwarm, der fröhliche Nacht.
Sir John,
C'est avec le final de ces joyeuses commères de Windsor, l'opéra d'Otto Nicolai est dans l'une des belles et rares versions au disque du reste. Une intégrale gravée par Raphaël Kubelik et les forces de la radio bavaroise que nous refermons ce numéro de l'ère des lieux. À Liège, sur le plateau de l'Opéra Royal de Wallonie, eh bien c'est une très belle distribution qui défendait cette partition. Franz Avlata dans le rôle-titre, Werner von Mechelen, Anneke Luyten et Sophie Junker, entre autres, mais il faudrait tous les citer. La dernière représentation avait lieu hier soir, mais le spectacle est en ligne et pour de longs mois d'ailleurs. Vous pouvez aller le voir sur culturebox.fr. C'est Agnès Catou qui a enregistré et réalisé cette émission. Un grand merci à elle, à Pierrick Charles qui était avec nous aujourd'hui pour le mixage et à Marie-Christine Ferdinand qui prépare nos équipées musicales. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr.